RFI 10h à Paris, 9h à Libreville, 8h en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli.
Et bonjour Nemo et bonjour à tous. Dans ce journal, les Gabonais dans l'attente des résultats de la présidentielle d'hier. Les résultats seront annoncés à la mi-journée après une journée de vote qui s'est globalement bien déroulée. Reportage à Libreville dans un instant. Plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote en Équateur, le pays rongé par les problèmes de narcotrafic a le choix entre deux candidats au programme très différent sur la lutte contre le crime organisé. Un accord autour d'un barrage stratégique entre les nouvelles autorités syriennes et les forces kurdes. Et puis on retrouve à la fin de ce journal Saliou Diouf sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris chez les valides hommes. Bernard Biwott se détache dans les derniers kilomètres dans la catégorie parasport. C'est le français Julien Cazoli qui a été vainqueur pour la 6e fois. Au Gabon, les résultats de la présidentielle attendus donc à la mi-journée, 13h30, heure de Libreville, annonce du ministère de l'Intérieur au lendemain d'un scrutin qui s'est globalement déroulé dans le calme. Plus de 920 000 électeurs étaient appelés aux urnes. La participation s'élevait hier à 18h à 87%. Ce scrutin met fin à 19 mois de transition démarrée après le coup d'État d'août 2023. Yves Laurent Gomin, notre correspondant, a suivi les opérations de dépouillement à Libreville.
De vote A, bureau 2. Y a-t-il encore des électeurs ?
Le bureau 2, Martine Laboubé, ferme. Il est 18h.
Les uns après les autres, les bureaux de l'école publique Martine Oulabou, un quartier proche du centre-ville, ont fermé entre 18h et 18h30. À l'intérieur, le dépouillement a rapidement démarré.
Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain-Claude Bilé-Bizé.
Depuis les fenêtres où ils sont autorisés de suivre les opérations, ces citoyens observent et notent les résultats au fur et à mesure.
Je suis en train de noter le nombre d'inscrits, les votants et les bulletins, non, bureau par bureau.
Tu ne veux rien rater ?
Rien du tout.
C'est la première fois, je n'avais jamais accepté d'assister à ce genre de choses. Et ça fait longtemps que j'ai voté, mon dernier vote est en 2009.
Je suis déçu parce que les deux principaux candidats incarnent la continuité.
Dans la soirée, la télévision nationale a organisé une nuit électorale au cours de laquelle les résultats de tout le pays et même de l'étranger ont été égrenés. Yves Laurent Goma, Libreville.
Ils sont appelés aux urnes aujourd'hui, second tour de la présidentielle en Équateur après un premier tour extrêmement serré. C'était en février entre Daniel Noboa, l'actuel président, qui a déclaré un conflit interne armé contre les gangs de narcotrafiquants, et Luisa González, la candidate du parti de gauche Révolution Citoyenne. L'Équateur miné par la violence des gangs. Un homicide a lieu dans le pays toutes les heures et les deux candidats n'ont pas la même approche pour lutter justement contre les gangs, comme nous l'explique Emmanuel Sinardet, professeur d'études latino-américaines à l'Université de Paris-Nanterre.
La main dure, selon Noboa, passe par une série d'instruments très divers, mais qui est aussi l'acceptation, on va dire, d'une présence sur le territoire équatorien de troupes étrangères, qu'elles soient privées ou qu'elles soient celles d'une base militaire américaine. Ce qui est, pour le moment, complètement repoussé par Luisa González. Elle base plutôt sa solution par un retour de l'État dans des politiques sociales, notamment couper l'herbe sous le pied aux groupes narcotrafiquants dans la séduction qu'ils opèrent sur le terrain auprès des jeunes, plus de la moitié des membres des groupes locaux de narcotrafiquants sont des mineurs en Équateur.
La chercheuse Emmanuelle Sinardet, jointe par Juliette Chénion. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi une nouvelle nuit d'horreur à Gaza. L'hôpital Al-Arli, le dernier fonctionnel dans le nord de Gaza, a été touché par des frappes israéliennes. Dans la nuit, les médecins ont dû évacuer dans des conditions extrêmes les patients quelques minutes avant les frappes, après un appel d'une personne se présentant comme membre de la sécurité israélienne. Selon des membres du personnel médical cité par l'agence Reuters, les frappes ont détruit les urgences et l'accueil de l'hôpital. On ne sait pas si ce bombardement a fait des victimes. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué ce matin avoir pris des mesures avant de bombarder le site pour épargner, je cite, les civils. Le Hamas, de son côté, dénonce un nouveau crime de guerre. Un accord conclu entre le pouvoir central et les autorités kurdes du nord-est syrien. Damas s'est engagé à assurer la sécurité du barrage de Tishrin aux côtés des forces kurdes. Le barrage est un point stratégique sur l'Euphrate qui alimente la Syrie en électricité et en eau. Mais cet accord pourrait aussi être une nouvelle étape vers la fin des combats entre Kurdes et forces pro-turques. Explication avec Marie-Charlotte Roupy.
Des forces du gouvernement syrien par intérim se sont rendues ce samedi au barrage de Tishrin. Avec ce nouvel accord conclu entre Damas et les autorités du nord-est syrien, une force militaire conjointe devra assurer la sécurité de ce barrage majeur pour l'approvisionnement en eau et en électricité de la Syrie. Il était depuis le mois de décembre le théâtre de violents combats opposant les factions armées soutenues par la Turquie aux combattants kurdes. L'administration civile kurde conserverait dans cet accord le contrôle des infrastructures et devrait assurer les travaux de réparation. Le barrage a été endommagé à plusieurs reprises ces derniers mois par des bombardements turcs. L'accord préciserait aussi que les forces pro-turques et toute opération militaire devront être maintenues éloignées de la zone. Parallèlement à cela, une délégation de Damas a rencontré le commandant en chef des forces démocratiques syriennes pour négocier l'intégration des institutions militaires et civiles kurdes dans la nouvelle Syrie, comme entendu lors de la signature d'un accord clé le 10 mars dernier. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad RFI.
Les États-Unis saluent un pas en avant et des discussions très positives et constructives. Déclaration de la Maison-Blanche dans la soirée à l'issue des pourparlers indirects hier avec l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Peu d'informations sur le contenu de ces discussions, mais Iran et États-Unis confirment bien que le dialogue se poursuivra samedi prochain. Les États-Unis qui lâchent du lest dans leur guerre commerciale, les smartphones et les ordinateurs venant de Chine ne seront finalement pas taxé à hauteur de 145%, exemption rendue publique hier. Les semi-conducteurs sont eux concernés par une dispense de la surtaxe de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des États-Unis. L'Algérie proteste vivement contre la détention en France d'un agent consulaire accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril sur le sol français de l'influenceur algérien et opposant au régime Amir Bouhors. L'Algérie qualifie l'affaire d'inadmissible au moment où le dialogue avec Paris vient de reprendre. L'agent consulaire et deux autres hommes ont été mis en examen vendredi à Paris pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le septième jour en relation avec une entreprise terroriste. Allez, enfin, direction la Porte Dauphine à Paris où Saliou Diouf nous attend sur la ligne d'arrivée du marathon 48e édition. Saliou Diouf, on vous retrouve. Le finish pour les hommes, est-ce que le vainqueur a franchi la ligne ?
Le vainqueur a franchi la ligne il y a quelques secondes, je pourrais dire. Et même, vous arrivez au bon moment, puisqu'il y a le podium qui s'est dessiné il y a un instant. Et le vainqueur, c'est Bernard Biwok, le Kenyan, qui a fini le marathon en 2h05. Et c'est un podium 100% africain, puisque le deuxième est un Éthiopien. Et chez les femmes, on n'a pas encore d'arrivée, mais ça se dessine tout doucement, même si je vais vous parler un petit peu aussi de l'environnement, parce que c'est assez intéressant. Il y a bon nombre de badauds qui étaient là pour applaudir la performance de Bernard Biwok, une performance exceptionnelle pour le coup, même si le record, je ne sais pas exactement s'il a été battu pour pas aller plus loin. Et il n'y a pas encore de femme qui a franchi la ligne d'arrivée à l'heure actuelle. Et un petit mot aussi pour dire que le Français Julien Cazoli a gagné le marathon chez les paras. Il a battu un record puisqu'il a fini en 1h33min03s.
Voilà, Julien Cazoli, c'est ça, vainqueur pour la sixième fois. Merci beaucoup, Saliou Diouf. Vous étiez porte dauphine pour le finish homme de ce marathon de Paris 2025. On suivra du côté des femmes la performance, le classement de Tirounej Dibaba, l'Éthiopienne invitée surprise de ce marathon de Paris, plus de 6 ans après sa dernière apparition sur la distance et après avoir donné naissance à 3 enfants. Du sport, c'est aussi du cyclisme ce week-end. Le Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, 122e édition. La reine des classiques cyclistes, le grand favori s'appelle Mathieu Van Der Poel. Le Néerlandais, double tenant du titre, il aura fort à faire puisque le boulimique Tadej Pogacar prend pour la première fois le départ de la course. Champion du monde en titre, vainqueur du dernier Tour de France, le Slovène n'a décidément aucune limite. Vous le suivrez évidemment avec Thomas de Saint-Léger, ce Paris-Roubaix, 10h passées de 10 minutes. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Vous retrouvez évidemment toute l'actualité sur notre site RFI.fr, sur notre application Pure Radio. Vous restez avec nous, l'info continue.